Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 4 décembre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Déjà en décembre, Noël approche. Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Bien, ce qui a retenu mon attention, c'est l'excellente performance boursière au mois de novembre. Le TSX a terminé le mois en hausse de 6,3%, ce qui fait que novembre aura été le meilleur mois de l'année. Il s'est quand même passé un événement important durant le mois de novembre qui a fait craindre à beaucoup d'investisseurs, qui était l'élection de Trump. Bien, les marchés financiers, faut dire que ça a très bien performé. S&P 500 en hausse de 5,8%. Le Nasdaq en hausse de 6,3. Les taux d'intérêt ont légèrement baissé aussi durant le mois. Donc, le XBB, l'indice obligation universelle au Canada, en hausse de 1,68 pour le mois. Ça fait quand même 4,95 pour l'année en cours. Donc, très bonne performance là, même du côté obligataire. Donc, les taux d'intérêt au Canada ont légèrement fléchi. On était à 3,22 à la fin d'octobre, 3,09 au 30 novembre. Même chose du côté américain, on est passé de 4,28 à 4,17. Donc, c'est ce qui explique la performance quand même assez bonne. En un mois, une obligation qui monte de 1,68, ben si ça faisait ça 12 mois par année, ça ferait tout un rendement à la fin de l'année, là, on s'entend. Ce matin, la Banque Royale a annoncé d'excellents résultats financiers. Les profits à la hausse, le dividende à la hausse de 4%, donc une hausse du dividende encore une fois plus élevée que l'inflation. On aime ça. Dollarama va également rapporter les résultats financiers un petit peu plus tard aujourd'hui. Quelques titres ont atteint des nouveaux sommets là, dernièrement. Évidemment, le marché est à des sommets, donc il y en a plein. Là, mais dans les titres qui, dont beaucoup de nos clients détiennent, là, Apple, Costco, Power Corp, ce sont des titres là, qui ont atteint des nouveaux sommets. Donc, quels secteurs ont le mieux performé durant le mois de novembre au Canada? Les technologies de l'information, avec en tête Shopify, là, qui a eu une performance exceptionnelle durant le mois de novembre, en hausse de 28%. À l'inverse, le pire secteur durant le mois de novembre, les télécommunications, avec BCE, on se souvient, ils ont fait une annonce un peu étrange là, d'une acquisition aux États-Unis. Le secteur est en baisse de 7%. Quand même un gros écart entre le meilleur et le pire secteur. Du côté américain, c'est un petit peu plus serré. Donc, le meilleur secteur, les consommations discrétionnaires. C'est quoi ça, Martin, en français, des consommations discrétionnaires? Qui sait ça? Amazon et Tesla sont les deux plus grandes composantes, donc deux titres qui ont très bien fait durant le mois. Les services de santé, performance de zéro. Donc, même aux États-Unis, le pire secteur a quand même fait c'était comme 0,2% positif. Là. C'était essentiellement zéro. Donc, les compagnies pharmaceutiques, entre autres, là, qui ont peut-être pas apprécié la nomination présumée de Robert Kennedy Jr. à la tête du système de santé.
J'allais dire. Donc, aujourd'hui, pour notre sujet principal, on va aborder un concept financier relativement simple, mais important à comprendre. Et c'est un des sujets, je me rappelle à l'université, quand j'ai commencé à étudier l'économie, c'était un des premiers sujets et j'ai trouvé ça révélateur et fascinant. C'est le coût d'opportunité ou coût de renonciation. Dans un premier temps, peux-tu nous expliquer ce qu'est le coût d'opportunité?
Oui, donc coût d'opportunité, coût de renonciation, c'est la même chose. Là, on va utiliser, nous, plus souvent le coût d'opportunité. Donc, ça sert à mesurer le gain relatif entre deux ou plusieurs opérations concurrentes. Donc, si je prends mon argent pour investir dans le placement X, ben je peux pas acheter le placement Y. Donc, quel aurait été le rendement de Y si je l'avais acheté au lieu d'acheter X? Donc, ça, c'est le coût d'opportunité, c'est donc le coût d'opportunité d'un investissement, c'est le coût de la non-réalisation de l'autre investissement. Donc, c'est vraiment là, on est des fois bien, bien content de regarder notre rendement et de dire « Ah, j'ai fait un bon rendement. Quel aurait été le rendement que j'aurais pu obtenir si j'avais fait un choix différent? » Et puis, on va parler là, de quelques exemples.
Puis, ça peut servir dans la vie aussi, donc…
Ouais, c'est pas que financier, là.
C'est ça,
ouais.
Exactement. Peux-tu nous donner un exemple concret?
Bien, concrètement, l'année passée, on se souvient, les certificats de placement garantis de un an, là, on avait du 5, du 5,5 sur un an. Et puis, on avait aussi le choix de placer à 3, 4 ou 5 ans. Puis là, sur 5 ans, c'était comme 4, 3 quarts. C'était moins payant placer à 5 ans que de placer à 1 an. Et c'était très attrayant quand on regardait, là, après une année 2022 difficile, ben c'était très tentant de dire, ben moi, je vais prendre un CPG 1 an à 5,5% parce que, de toute façon, mon rendement moyen de mon portefeuille, évidemment, après la baisse de 2022, la moyenne était un petit peu plus basse, ben ça a donné à peine un peu plus que ça. Donc, pour pas de risque, j'ai 5,5%. Alors, on se félicite, on se tape dans le dos parce qu'aujourd'hui, les taux sont plus bas. Donc, j'ai vraiment fait une bonne affaire d'acheter mon CPG à 5,5%. Ben qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement l'année passée? Ben, on aurait pu aussi dire, ben moi, je vais acheter l'indice obligataire universel. Donc, on est quand même dans la même sphère, là, revenu fixe à revenu fixe. Donc ça, c'est les obligations qui avaient perdu quand même beaucoup de valeur en 2022. Bien, les taux d'intérêt aussi étaient élevés. Par contre, c'était moins solide, là. Donc, si j'avais acheté le XBB, qui est le fonds négocié en bourse là, qui reflète la performance de l'indice, bien, il a quand même fait 8,5% année sur année pendant que mon CPG a fait du 5,5%. Donc, je n'ai pas gagné 3%. Donc, le coût de ma sécurité, ça a été de ne pas gagner 3%. J'aurais pu aussi rester dans mon profil équilibré, par exemple. Donc, quel aurait été le rendement? Puis là, on utilise là, la performance d'un fonds négocié en bourse qui est un panier de fonds négociés en bourse qui représente un portefeuille équilibré. Le rendement a été de 17,5% durant cette période-là. Donc ça, c'est les chiffres là, il y a 3 jours. Okay? On s'entend, là, on se prépare un petit peu d'avance quand on fait le balado. Donc les chiffres peuvent être quelques fractions là, à la hausse ou à la baisse. Donc, ben, ma sécurité de 5%, finalement, m'a coûté 12,5% de rendement. On s'entend à profil égal, OK? On va tout mettre. On n'est pas en train de faire des recommandations à profil égal. On a un profil d'investisseur. On doit respecter la tolérance au risque et les objectifs de placement. Toute chose égale par ailleurs, je peux avoir fait un choix.
Il faut dire, dans cette optique-là, il y a un coût à ne pas dormir la nuit. Ça nous coûte quelque chose physiquement, mentalement, moralement.
C'est un des coûts d'opportunité.
Donc, exactement.
Ce qu'on veut mentionner là-dedans, c'est le fait de ne pas gagner un rendement. C'est l'équivalent d'une perte. Puis j'ai déjà fait l'exercice, je me souviens, il y a quelques années, avec une cliente qui était quand même plus prudente là, dans sa nature. Puis, bon, elle était bien contente parce qu'elle avait fait, tu sais, 3-4 % par année. Je me souviens plus des chiffres, ça fait un bout de temps. Puis, ben, tu sais, elle avait peur de perdre, mettons, tu sais, 50 000 $ là. Fait qu'elle faisait à 3 % elle perdait jamais, tu sais. Mais si on avait placé pendant les 10 ans à 6 % tu sais, elle aurait été 200 000 $ plus riche. Donc, tu sais, finalement, c'est l'équivalent d'avoir perdu 200 000. T'sais. Tu ne l'as plus dans tes poches, le 200 000. Donc, c'est vraiment cette idée-là, le fait de ne pas gagner, c'est l'équivalent de perdre. Aujourd'hui, puis un des coûts d'opportunité qu'on va regarder, donc dans le passé, ça nous est arrivé de proposer des billets à capital garanti à nos clients. Donc, un billet à capital garanti, là, le capital est garanti jusqu'à l'échéance sur une durée de 3, 4, 5 ans, là, peu importe. Le rendement, il est donc basé sur la performance d'un indice boursier quelconque. Donc, c'est possible qu'on réalise 0 % de rendement, mais on espère faire un rendement plus élevé. Donc, quand les taux d'intérêt en 2021-2022 étaient de 0 %, ben, tu sais, j'avais le choix entre un CPG à 0,75 % par année ou un billet à capital garanti. Ben, mon coût de réaliser zéro avec mon billet n'était pas très élevé parce que ce que je sacrifiais, c'était le 0,7 par année, donc à risque égal. Est-ce que je ferais le même choix aujourd'hui quand les taux d'intérêt sont, mettons, 4-5 % par année? Bien, le coût de faire 0 % de rendement au bout de mon 5 ans, c'est d'avoir perdu le 25 % que j'aurais réalisé sur mon CPG. Donc, il faut vraiment évaluer ça. La même décision qui est bien intelligente dans un contexte peut être parfois questionnable dans un autre contexte en fonction du coût d'opportunité. Peut-être un autre exemple qui nous touche souvent... Ben, rembourser son hypothèque au lieu de placer dans son CELI. Ben, ça dépend de votre tolérance au risque, ça dépend de votre profil d'investissement, ça dépend des impôts aussi. Donc, si j'investis, tu sais, j'ai 10 000 $ là, je fais-tu un versement de capital sur mon hypothèque à 6 l'année passée, là? J'avais mon taux variable, ça montait tout le temps, puis j'étais nerveux. Est-ce que j'accélère mon remboursement hypothécaire ou je le place dans mon CELI? Je vous rappelle que le rendement d'un portefeuille équilibré indiciel a fait du 17,5 l'année passée. Donc, c'est sûr que j'aurais donc dû le mettre dans mon CELI. Et puis là, on n'est pas en train de dire qu'il faut toujours placer, il y a une question, tu l'as mentionné, très importante. Écoute, si je ne dors pas la nuit, là, ben, remboursez votre hypothèque là, parce que le sommeil est important.
Bien, puis j'aime souvent ta solution, Martin. Puis ça, on vire. Puis moi, je suis une personne d'extrême, fait que tu m'aides à être plus équilibrée dans ma vie. Des fois, la solution, c'est d'aller à mi-chemin.
Ouais.
De rembourser un peu son hypothèque, puis de mettre un peu dans son CELI.
Toujours le concept de notre cher ami Jean-René Ouellet, on est mieux d'avoir partiellement raison que 100% tort.
C'est ça.
Donc, si j'ai 10 000, ben, pourquoi je ne mets pas 5 000 dans mon CELI, 5 000 sur mon hypothèque? Je suis sûr qu'il y a un des deux 5000 qui va avoir été la meilleure décision. Donc, mais c'est vraiment ça. Donc, ça peut paraître une très, très bonne décision de rembourser son hypothèque. Si je n'ai pas de problème avec le paiement mensuel, que ma situation financière est stable, que, tu sais, donc on va mettre la table à une situation qui fait qu'on n'a pas l'obligation absolue de rembourser son hypothèque. Puis je regarde le rendement historique de mon portefeuille diversifié. Puis bon, on peut présumer qu'on va continuer à générer un rendement similaire dans le futur, puis je fais du 8% par année en moyenne, ben pourquoi je rembourserais du 6 au lieu d'investir dans du 8, présumément que je n'ai pas d'impôt à payer. Donc l'important, c'est le CELI. Ben, si je fais du 8 dans mon compte non enregistré, quand même que je prévois l'impôt à payer. L'hypothèque n'est peut-être pas déductible.
Bien, puis je pense que c'est là où notre valeur est démontrée en tant que conseiller. C'est là où on vous suggère de nous appeler parce qu'on peut avoir la discussion avec vous de dire, bien, voilà le coût d'opportunité, voilà les risques associés et ça vous aide à prendre une décision qui est beaucoup plus éclaircie.
Absolument.
As-tu d'autres exemples dans la vie de tous les jours?
Bien, il y en a plusieurs. Puis la question qu'on se fait poser bien souvent puis que tout le monde se pose, puis nos enfants se posent, tu sais, est-ce que je devrais acheter une maison ou demeurer locataire? Puis là, c'est bien facile parce que tout le monde dit, ben une maison, ça monte toujours en valeur. Tu sais, c'est le meilleur placement, c'est ma maison. Oui, c'est facile. D'une part, on reçoit pas un relevé de la valeur de sa maison à tous les mois, donc c'est moins stressant. On n'a pas l'impression que la valeur de la maison fluctue, alors qu'en réalité, si on devait la vendre au meilleur offrant à tous les jours, on se rendrait compte que l'offre, la meilleure offre à tous les jours n'est pas toujours le même prix puis pas toujours à la hausse. Mais on a fait l'exercice dernièrement là, de calculer, ben, tu sais, on en a des jeunes, là, on en a un qui magasine un petit peu, là, peut-être, il regarde ça, ben, il y a un loyer à payer actuellement. Puis s'il voulait changer pour s'acheter une maison dans son quartier comparable, avec un niveau de confort comparable, ben, ça coûtait quand même 50% plus cher par mois, là. Le coût juste intérêt, capital, intérêt, taxe municipale. Là, on n'a pas parlé de l'entretien. Peut-être que dans 15 ans, il faut refaire le toilet, changer les fenêtres, oh, la plomberie pète, oh, il faut changer le chauffe-eau. Donc, le coût d'opportunité, il est là. Quand je suis locataire, là, quand quelque chose brille, je prends le téléphone, j'appelle mon propriétaire, puis je dis « Hey, ça l'a cassé. »
Ouais.
On peut presque vous garantir que si vous achetez un condo, vos frais de condo par mois, là, ils vont monter plus vite que l'inflation. Par contre, votre loyer, ben, il y a toujours le tribunal administratif du logement qui a une certaine protection pour les locataires. Votre loyer ne va pas augmenter beaucoup. Ça veut-tu dire qu'on devrait jamais acheter une maison puis demeurer à loyer? Pas nécessairement, mais il faut évaluer les coûts totaux de la transaction. Et puis, dans cette équation-là, donc quels sont les bénéfices financiers, mais aussi les bénéfices personnels? Tu sais, je veux être chez moi, je veux être maître chez moi, je veux être propriétaire, c'est correct, mais comptez toutes les dépenses dans votre calcul. Louer ou acheter une auto, tu sais, le paiement, il n'est pas pareil. Là. Si je vais au dealer puis je magasine ma voiture, je la finance à l'achat sur 6 ans ou je la loue sur 4 ans. Vous allez voir que le paiement n'est pas pareil, mais au bout de 4 ans, je ramène les clés au dealer. On a vécu une courte période où quand on ramenait les clés, le concessionnaire nous faisait un chèque, là, il était heureux de revoir la voiture. Pas mal fini, là, ça. Le prix des voitures n'est plus à la hausse. Le prix des voitures est à la baisse, du moins les usagers. Donc, il faut quand même regarder ce coût d'opportunité-là. Ben si je loue, puis mettons, je loue mon auto, elle me coûte 600 par mois, mais l'acheter, ça me coûterait 900. Ben, je peux-tu prendre le 300 puis le mettre de côté puis l'épargner? De sorte qu'au bout de ma location, ben j'ai toujours bien les 48-300$ que j'ai mis de côté. Donc, il me reste pas rien, il me reste les 48-300$. Donc, c'est de compléter des fois l'équation entre louer puis acheter. Entre l'écart des deux, ben il faut faire quelque chose avec cet argent-là.
Puis même si ça n'a pas attrait à vos finances avec nous, vous pouvez nous appeler puis poser la question. Puis il y a beaucoup de clients qui nous posent la question, qu'est-ce que je devrais faire avec ma voiture?
Exact. Acheter un bien... C'est quoi le prix d'un bien? Donc, je m'achète une nouvelle voiture, je la paye comptant 20 000. Mais ma voiture, elle me coûte 20 000 plus tout le rendement d'intérêt que je ne réaliserai pas sur ce 20 000-là parce que je ne l'ai plus dans mon portefeuille de placement, je l'ai donné au concessionnaire. Donc, c'est de calculer le coût total du bien avec pas seulement le prix sur l'étiquette, mais également le rendement que je sacrifie, donc le coût d'opportunité.
Puis, il y a une chose que tu me dis souvent quand j'aime ça magasiner, puis je dis « Ah, oh, achètes-tu telle affaire? » Tu dis, puis tu me le dis en anglais, fait que tu pourras le traduire pour moi. « This does not move my happiness needle. »
Ouais, exact, c'est ça. Le contrôle du bonheur, tu sais, l'objectif dans la vie, c'est la poursuite du bonheur, puis... Tu sais, bien souvent, on a l'impression que d'acheter un bien, ça va nous rendre plus heureux. Puis psychologiquement, là, je pense que tu as fait des études un petit peu là-dessus. Acheter un bien, ça nous rend heureux pendant quelques minutes à quelques jours. Par contre, vivre une expérience, ça nous rend heureux à beaucoup plus long terme parce qu'à toutes les fois qu'on va raconter notre expérience, notre voyage incroyable, notre souper au Mousseau, par exemple, ben ça nous rend heureux une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois de le raconter.
Et puis, ça fait partie de notre calcul de coût d'opportunité.
Exact.
Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce concept?
Donc, bien évaluer le coût total du projet ou de l'investissement. Donc, pas juste dire, ah, ben j'achète ma maison, puis là, elle monte en prix, puis j'ai fait mon paiement mensuel. Ouais, t'as payé des taxes à chaque année, t'as payé des entretiens, des réparations. Donc, quand on calcule le rendement réel d'un investissement, on doit inclure tous les coûts. Puis on se rend compte que l'immobilier, là, à très long terme, la croissance de l'immobilier, c'est environ 3 % par année. Donc, la bourse, historiquement, a fait beaucoup mieux que l'immobilier. Puis en plus, elle ne nous appelle pas la fin de semaine parce qu'il y a quelque chose de brisé dans l'appartement. Puis un des coûts très élevés, là, il y a deux coûts élevés, notre ego et notre peur. Donc, l'avoir un ego élevé, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire d'aller magasiner chez Mercedes-Benz au lieu d'aller magasiner chez Honda. Je l'ai dit à la blague, mais c'est évidemment si on veut paraître riche au lieu d'être riche, ben bien souvent c'est notre ego qui est un frein à notre patrimoine et notre peur aussi. Donc la peur de perdre fait qu'on va s'empêcher de gagner. On peut un peu vous coacher, puis la force du conseil, elle est beaucoup là. C'est pas de vous encourager d'aller de 0 à 100, mais on peut-tu vous prendre de 20 puis de vous monter à 30, tu sais? C'est juste d'avoir légèrement plus d'exposition au marché boursier pour aller chercher le meilleur.
Puis tu dis souvent, une des choses qu'un conseiller fait, c'est d'avoir la mémoire plus longue que ses clients.
Ouais.
Donc, nous, on peut vous démontrer aussi, des fois, quand vous avez eu du courage, qu'est-ce que ça l'a donné? Donc, ouais. Des fois, de pouvoir vous le démontrer, ça aide.
Oui. Puis en finance comportementale, il y a un concept qui est très, très intéressant, qui a été étudié, je pense, c'est à la fin des années 70, qui est l'asymétrie du risque en finance comportementale. Donc, c'est le niveau de malheur et de... Donc, si j'ai le choix entre deux événements financiers, le fait de gagner 10 $ me procure un bonheur moins élevé que le fait de perdre 10 $ me donne de malheur. Donc, je suis plus malheureux de perdre 10 $ que je suis heureux de gagner 10. Donc, c'est ça qui fait qu'on a une aversion naturelle au risque. Et il faut combattre parce que c'est un biais comportemental qui est un peu négatif. C'est pas normal, c'est le même 10 $, tu sais. Donc, je devrais avoir une émotion égale d'un côté comme de l'autre. Mais la réalité, c'est que l'émotion négative, elle est plus forte. Elle l'emporte. C'est dans notre ADN. On est là un petit peu pour vous coacher à combattre cette émotion-là.
Puis je pense, pour moi, ça explique ma passion pour les finances. C'est parce qu'il y a un côté très, très psychologique à ça. Et j'ai aussi une passion pour la psychologie. J'ai de la misère à dire le mot psychologie en français, mais j'ai quand même la passion. Donc, merci beaucoup, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, ainsi que toute notre équipe, Michel et Mathieu aussi. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.